Les cours du Collège de France, Denis Duboul, chaire Évolution du développement et des génomes.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver pour ce cours qui, cette année, n'aura que 4 leçons, puisque j'ai eu le privilège de donner 3 leçons à l'extérieur. 4 leçons qui vont traiter d'un sujet qui est vraiment, semble-t-il, d'une grande actualité, peut-être même d'une trop grande actualité en fait, et qui certainement va impacter notre société de façon importante, peut-être pas nécessairement sur l'application de ces technologies que je vais vous présenter, sur leur application directement à l'espèce Homo sapiens, parce que je doute en fait que nous en arrivions à ce stade dans les 10, 15, 20 années à venir, mais certainement sur la façon que nous avons de penser notre statut d'être humain et notre position au sein du règne animal, et puis surtout les relations que nous avons depuis des siècles avec ces fameux embryons, cette descendance finalement qui nous permet de pérenniser notre espèce et qui, pour plusieurs philosophes, biologistes, sont parmi les raisons essentielles pour lesquelles nous sommes sur Terre. Et donc, la fabrique des embryons, entre guillemets, les embryons, bien entendu, puisqu'on va voir qu'il y a quand même une distinction à faire qui est importante, ce ne sont pas par définition des embryons, et c'est justement le sujet de ce cours. Sur la gauche, vous avez un fœtus humain avec un stade qu'on appelle de Carnegie 23, et je reviendrai sur cette classification. Et puis sur la droite, vous avez une comparaison qui est intéressante entre un embryon de souris qui est sur le haut à 8 jours et demi, et puis en dessous, un de ces pseudo-embryons, un embryoïde qui est préparé de façon intégralement artificielle avec des cellules souches. Et c'est de cela que j'aimerais vous parler pendant ce cours. Alors l'objectif, eh bien, c'est vraiment de traiter de ces développements les plus récents dans la production, la culture de pseudo-embryons. Alors, on discutera rapidement de la sémantique, c'est pas vraiment important finalement, embryoïde, pseudo-embryons, embryons synthétiques, on essaie d'éviter d'appeler ça les embryons synthétiques, avec un accent particulier, presque intégralement, sur les embryons, pseudo-embryons humains. Quelles sont les raisons scientifiques pour en produire, pour les étudier? Est-ce que ces pseudo-embryons peuvent se développer à terme? Sont-ils vraiment des copies d'embryons ou seulement des sortes d'ersatz de modèles? Eh bien, nous essaierons de répondre à ces questions. Alors, j'aimerais préciser d'entrée que je vais rester à vraiment un niveau le plus scientifique possible, sans trop m'attarder sur les questions éthiques ou les questions sociales, puisque ces questions, en fait, qui sont évidemment absolument fondamentales, seront discutées lors du colloque qui aura lieu le 7 juin. Et vous êtes tous, évidemment, très cordialement invités. Juste en deux images, vous le présenter. C'est un colloque qui sera un colloque mixte, avec une matinée qui sera une matinée vraiment scientifique, avec comme intervenants vraiment les gens qui sont en train de faire bouger les lignes, les gens qui sont vraiment engagés dans ce travail au jour le jour. Ce sera un colloque en anglais avec une forme scientifique classique. Par contre, l'après-midi, on passera à la langue française pour une sorte de discussion sur les cadres éthiques, les cadres légaux. Il y aura un intervenant qui présentera ce que sont ces pseudo-embryons. Vous le saurez, je l'espère, à ce moment-là. Et puis ensuite, des discussions sur le côté éthique, le côté légal. Voilà. Alors, revenons à ce cours, à son contenu. 4 leçons. La leçon d'aujourd'hui, une introduction sur un tout petit peu d'histoire, un tout petit peu d'embryologie classique, parce qu'évidemment, malheureusement peut-être, il y a certaines bases à avoir pour bien intégrer, bien comprendre si ces pseudo-embryons sont des embryons. Mais surtout, je vais passer pas mal de temps ce soir à discuter la justification. Pourquoi investir autant de moyens, d'efforts de compétences pour essayer de faire pousser des pseudo-embryons? Vous verrez que ça pose une sorte de paradoxe que je vais discuter dans une minute. La deuxième leçon, puis la troisième et la quatrième, seront alors consacrées à trois modèles de pseudo-embryons que j'ai choisi parmi peut-être 6 ou 7 modèles aujourd'hui qu'on peut utiliser en culture. J'ai choisi de façon assez subjective finalement 3 études, une qui concernera ce qu'on appelle les blastoïdes, puis la troisième leçon sur les gastruloïdes, beaucoup d'oïdes, et puis la dernière leçon sur l'étape finale des embryons qu'on appelle des embryons intégrés, qui sont ceux qui, par définition, vont ressembler le plus aux vrais embryons. L'embryon humain est-il un embryon mammifère? C'était le titre de cette leçon ce soir. Et j'ai choisi ce titre parce que c'est un titre qui pose bien la question de la justification. Puisqu'en effet, si certains d'entre vous, que je reconnais en fait, m'ont fait le plaisir d'assister au cours précédent, je n'ai cessé durant ces 6 ou 7 dernières années à marteler l'importance de l'homogénéité de tous les animaux, entre tous les animaux, des mécanismes les plus fondamentaux, a fortiori quand on passe alors dans les mammifères, avec cette idée de système modèle. Et par conséquent, on peut se poser la question aujourd'hui, mais si vraiment tous les animaux se ressemblent, a fortiori si tous les mammifères se ressemblent, pourquoi passer autant de temps et d'efforts à développer des systèmes qui sont des systèmes mammifères, qui ne sont pas de la souris, qui ne sont pas du lapin, qui sont de l'Homo sapiens? Et c'est une question qui est absolument valide et à laquelle il s'agit de répondre. Et une petite partie de la réponse se trouve dans ces deux photos, en fait, que j'aime bien montrer. C'est une photo, il y en a une, c'est un embryon de souris, et une, un embryon, on pourrait même appeler un fœtus précoce, humain, à un stade comparable. Alors je ne vais pas faire de quiz, je connais d'avance la réponse, ce sera une réponse à peu près à moitié-moitié, où les gens me diront ben, c'est celui de gauche, c'est celui de droite. Et évidemment, ça dépend de la façon dont on regarde ces fœtus. Si vous regardez au premier critère qui serait un critère intuitif, la taille du cerveau, bien évidemment, les répondre le fœtus de gauche est l'embryon humain, puisque déjà un cerveau démesuré, en fait, pas du tout, c'est la souris. La souris développe un cerveau qui n'est pas très développé, il le développe rapidement. Et donc à ce stade, la quantité de cerveau en ratio du corps est importante. À droite, le fœtus humain, qui va développer un cerveau extrêmement important, mais qui va prendre son temps, ça va prendre beaucoup de temps pour construire cet organe. Et donc à ce stade, comparativement, le ratio cerveau-reste du corps est différent. Alors, évidemment, pour ceux d'entre vous qui ont regardé la partie postérieure, ils auront sans doute remarqué qu'ici, il y a une queue, donc la confusion n'est pas possible. Encore que j'aime bien rappeler que l'embryon humain a une queue, qui a été définie comme une vraie queue par Hermann Foll, un anatomiste français qui enseignait à Genève au début du siècle passé. Ce sont 4 ou 5, entre 3 et 5 vertèbres qui vont se régresser, qui vont disparaître, mais pendant le développement, on a une petite structure qui a l'aspect d'une queue. Voilà. Alors la raison évidemment pour laquelle je vous montre ces images, c'est que ce sont deux mammifères, et pourtant, Ce sont des anatomies, des structures qui, tout en étant parfaitement identiques d'un point de vue topologique, sont tout de même relativement différentes d'un point de vue morphogénétique. Vous voyez que les deux foetus ont des bourgeons de pattes, de bras, de jambes, l'appareil branchial. Vous voyez ici toute la structure segmentée, vous allez retrouver ça dans les deux foetus, mais l'organisation générale est tout de même relativement différente. Donc il y a des différences. Un tout petit mot sur l'histoire de l'embryologie humaine, simplement pour mentionner que ce n'est pas une discipline très ancienne. On estime qu'elle a vraisemblablement commencé avec un anatomiste suisse de Bâle, Wilhelm Hiss, bien connu pour les gens qui font de la biologie du développement. Vous voyez ici une photo de Hiss, c'est une photo prise d'un buste, on trouve cette photo dans une librairie à Bâle, et vous voyez que dans sa main droite, il tient un petit foetus humain, c'est une des premières illustrations qu'on a, et surtout, Wilhelm Hiss est le premier à produire des planches anatomiques du développement de l'embryon humain, qui sont de belles planches, qui sont détaillées, et qui finalement peuvent être utilisées dans un but scientifique. Donc on peut considérer Hiss comme étant vraiment un des précurseurs de l'étude des embryons humains, et également, en quelque sorte, le mentor d'une autre personne très importante qui s'appelait Franklin Moll et qui était un anatomiste américain, fondateur du département d'embryologie d'un institut qui est très connu aux États-Unis, qui s'appelle précisément le Carnegie Institute à Washington, D.C. Et c'est pour ça que je mentionnais ces stades humains qu'on appelle le stade Carnegie, parce que sous l'impulsion de cette personne, c'est un institut qui a été créé par Andrew Carnegie en 1902, sauf erreur, sous son impulsion, des travaux vont se dérouler sur l'embryologie humaine, et en particulier par ce couple ici, Ronan O'Reilly et Fabiola Muller, qui vont beaucoup travailler sur la classification des embryons humains en écrivant un ouvrage qui sera publié dans les années 80, un ouvrage qui est toujours un ouvrage de référence dans lequel ces embryons sont finalement classifiés par stade. On a ce qu'on appelle des stades Carnegie de 1 à 23, vous les voyez ici, avec pour chaque stade une correspondance. Par exemple, Carnegie 14 correspond à 31-35 jours avec une taille de à peu près 6 mm. Et donc il y a 23 stades Carnegie, et encore aujourd'hui, on y fait référence quand on parle de l'embryon humain. Voilà. Comme tous les mammifères, le début du développement des humains se passe fécondation, clivage, division de l'œuf en deux blastomères. C'est ce qu'on appelle généralement un clivage de type holoblastique, c'est-à-dire que l'œuf se divise entièrement. Vous allez me dire, ben, c'est généralement ce qui se passe, mais non. Par exemple, chez les oiseaux, eh bien, on a un clivage qui est partiel, qui fait juste la surface. Vous n'avez jamais vu, en ouvrant un œuf d'oiseau, de deux grandes cellules. Il y en a toujours une seule. Donc, il va y avoir un clivage partiel. Chez les mammifères, on a un clivage holoblastique, isolécite, puisque la distribution du cytoplasme, la distribution des nutriments dans le cytoplasme est relativement égale, isolécite, et rotationnel, parce que à la première division de quatre cellules, les blastomères vont maximiser leur contact, et donc on va avoir un effet de rotation. C'est simplement une classification, un embryon holoblastique, isolécite, rotationnel. Alors, ce qui est intéressant d'un point de vue général pour l'embryologie des mammifères, mais pas que, en fait, pour l'embryologie des vertébrés en règle générale, c'est que les premières divisions ne sont pas appelées divisions, elles sont appelées clivages, pour une raison assez simple. c'est que le résultat d'un clivage n'est pas deux cellules de la même taille que la cellule mère. Et on le voit très bien ici. On voit qu'on a deux cellules qui se divisent en quatre, mais la taille globale de ces quatre cellules correspond à la taille des deux cellules. Donc en fait, ce qu'on fait dans ces divisions précoces, c'est de prendre un objet et de le diviser. Ce n'est pas du tout de prendre un objet et que deux cellules soient de la même taille que la première, parce qu'on peut faire le calcul très rapidement, on irait vers un embryon précoce d'une taille absolument énorme. Donc on appelle ça des clivages. Et la raison, la façon dont ça se passe, c'est que les phases G1 et G2 sont très courtes, donc pendant la mitose, la division cellulaire. Donc en quelque sorte, la cellule n'a pas le temps de reconstituer son matériel, et par conséquent, les cellules sont de plus en plus petites. Au bout de quelques jours, on va avoir une compaction. Vous voyez que ces cellules-là, 8 cellules, 16 cellules, on va avoir une compaction, et puis apparition d'une cavité, on va appeler la cavité blastocélique, et cette structure d'embryon, ici, on va appeler ça un blastocyste. Et la semaine prochaine, on verra précisément comment produire des blastoïdes, c'est-à-dire des embryons artificiels qui ressemblent à ce stade particulier. Formation d'une cavité. Au bout d'un certain temps, cette cavité va pomper de l'eau, du liquide, le blastocyste va gonfler et va éclore. C'est-à-dire qu'il va sortir de cette couche de matrice extracellulaire de glycolipides que vous voyez ici, qu'on appelle la zone pellucide, c'est cette zone que vous avez là, c'est pas, ce sont des glycoprotéines sulfatées, et qui entourent l'embryon. Cette couche, elle est extrêmement importante pour plusieurs raisons. Premièrement, elle va empêcher la polyspermie, ce qui évidemment est absolument essentiel, mais surtout, elle va empêcher l'embryon de s'implanter avant d'avoir atteint l'endroit où il doit s'implanter. Il faut vous imaginer que ces embryons sont extrêmement collants. Et donc, si cette couche de zone pellucide n'existait pas, les grossesses seraient automatiquement extra-utérines au niveau des trompes, puisque dès que l'embryon serait fertilisé, quelques divisions, on colle. Et c'est un point qui est important à garder à l'esprit parce que ça vous montre déjà qu'il y a un tempo pour l'embryon de telle sorte à faire correspondre une éclosion qui est un phénomène qui est uniquement dû à l'embryon lui-même, hein, à un moment il va sortir de cette gangue, avec l'endroit où il va être au moment où il va éclore. Donc là, on a déjà une correspondance entre l'état d'une muqueuse utérine d'un côté et l'éclosion d'un blastocyste de l'autre. Et si on a un décalage, on va avoir un problème d'implantation. Donc l'embryon ne doit pas coller avant d'avoir atteint son endroit d'implantation. Que ce soit dans les trompes chez les humains ou dans un oviduc, c'est un peu différent chez les souris. Dès que l'embryon s'implante, et c'est là qu'on rentre vraiment dans le sujet de ce cours. Dès l'embryon implanté, il devient virtuellement invisible, inaccessible à l'expérience, que ce soit d'ailleurs chez les humains, pour des raisons totalement évidentes, mais chez les rongeurs également. Les premiers jours de l'implantation, parfois, il est même difficile de les trouver, les embryons. Ils sont extrêmement petits, on les voit généralement par la réaction de la muqueuse utérine, mais l'embryon, on ne le voit même pas. Donc pensez aux difficultés qu'on a à obtenir suffisamment de matériel pour faire de la biochimie, c'est extrêmement compliqué. Et on voit ici ces deux grandes phases de développement qu'on appelle la phase pré-implantatoire chez la souris, on pourrait la remplacer par l'humain finalement, avec l'oocyte, fécondation, développement préimplantatoire, quelques jours, blastocyste, éclosion du blastocyste, implantation, et là on rentre dans ce qu'on appelle la barrière utérine, c'est-à-dire soudainement dans une boîte noire où on ne sait plus trop ce qui se passe. Chez les humains, cette boîte noire est vraiment noire. C'est-à-dire qu'on n'a pas accès à ces embryons, a fortiori. Généralement, à ce stade, la plupart des femmes ne savent même pas qu'elles sont enceintes. Donc on a un manque d'informations absolument patent en ce qui concerne ces premières étapes. Alors, si ces étapes étaient triviales, eh bien tant pis, mais malheureusement, ce sont parmi les étapes les plus importantes de notre développement, et en particulier un phénomène sur lequel je vais revenir dans quelques minutes, qui s'appelle la gastrulation, qu'on a déjà discuté au sein de ce cours, c'est-à-dire le moment où, en fait, une boule de cellules, hein, que vous voyez là, a une apparence, vraiment pas l'apparence d'un fœtus, un embryon en fait, va par des mouvements extrêmement compliqués, des migrations de tissus, des migrations de cellules, soudainement s'organiser pour donner naissance à un fœtus. On se dit, ah, voilà, là on y est. Eh bien, c'est ce phénomène de gastrulation et de neurulation qu'on ne peut pas étudier, en tout cas chez l'humain, dû au problème de l'invisibilité de cet embryon au cours de l'implantation. Alors, pourquoi ne pas se contenter de travailler avec des rongeurs ? Je vous ai dit un tout petit mot tout à l'heure en vous montrant ces deux photos, mais ce n'est pas suffisant. Quelles sont les vraies raisons pour lesquelles la société devrait accepter que des chercheurs passent beaucoup de temps à développer ces systèmes avec le nombre de problèmes sociaux, éthiques que cela peut représenter. On aura l'occasion d'en discuter. Bien, pour répondre à cette question, je me suis en fait inspiré d'une publication très intéressante qui est sortie cette année, en 2024, par une des grandes spécialistes du domaine de l'embryologie des mammifères depuis très longtemps. C'est une femme qui s'appelle Janet Rossent et qui travaille à Toronto et qui a beaucoup travaillé de ses mains en embryologie classique. Je vous montrerai d'ailleurs une des contributions majeures qu'elle a pu faire quand on parlera des blastoïdes, mais qui depuis quelques années réfléchit aussi aux problèmes politiques, éthiques, légaux. Et donc en début d'année, elle a publié cet article « Pourquoi étudier le développement humain ?»« Why study human ?» Alors, dans ce titre sont inclus deux choses. Pourquoi étudier le développement des embryons humains, quand c'est possible, bien entendu, c'est-à-dire tous les problèmes qui sont liés, par exemple, aux embryons surnuméraires dans les FIV. Est-ce qu'il y a un intérêt à essayer d'utiliser ces embryons? Jusqu'à quand? Pour voir quoi, hein? Mais la grande partie du contenu de ce titre, en fait, concerne ces pseudo-embryons. Pourquoi est-ce qu'il faut absolument qu'on arrive à développer ex utero, in vitro, des systèmes qui ressemblent le plus possible à l'embryon humain? Alors, elle identifie 13 raisons, en fait, et je pense que il y en a certainement quelques-unes supplémentaires, peut-être même d'importantes, mais je vais vous présenter ces raisons rapidement, parce que vous verrez que à la fin de cette liste, cette sorte de vade-mecum, d'argumentaire, on a, je pense, fait quand même bien le tour du justificatif de tout ce qui se passe depuis 4 ou 5 ans. La première raison, alors avant d'arriver à ces raisons, juste une petite note. Vous voyez ce que j'ai mis en rouge ici, c'est assez intéressant. Janet Rossent est une anglo-saxonne, évidemment, et donc on a toujours ce côté quand même en fond, ce côté utilitariste anglo-saxon. Et vous voyez qu'elle commence cette publication en disant « The ongoing ethical and political debate », c'est-à-dire dans le climat actuel des débats politiques, éthiques, légaux, etc., il faut absolument qu'on arrive à convaincre les gens de l'utilité d'étudier ces pseudo-embryons humains. On n'est pas du tout sur un schéma de dire « nous sommes des humains, il faut étudier les embryons humains par intérêt pour l'embryologie humaine ». C'est que vraiment, vous allez vous retrouver devant des gens qu'il va falloir convaincre. Et donc, voici la liste des arguments, une sorte d'élément de langage hein, que vous pouvez utiliser si, par hasard, vous êtes dans des milieux, etc. Elle donne ces donc 13 arguments différents. Le premier, c'est ce que j'appelle l'argument ontologique, bien sûr, la raison ontologique. Hein, c'est heureusement, d'ailleurs, c'est la première raison qui apparaît. Simplement, il s'agit de nous comprendre, non pas au travers d'autres animaux, mais de nous comprendre, nous, d'essayer de regarder, de réfléchir sur notre statut de développement en se regardant nous-mêmes. Alors, il y a évidemment de nombreux philosophes, scientifiques qui ont réfléchi sur ces questions, sur la question du statut, du développement, de l'évolution de l'être humain. Je vous montre juste une phrase intéressante d'Henri Bergson, hein, qui évidemment était un professeur dans ce collège, dans son ouvrage, un de ses ouvrages principaux, L'évolution créatrice. Vous voyez qu'il dit encore, il parle de ces grandes directions d'évolution, hein, dans l'évolution créatrice, vous voyez qu'il dit encore ces directions n'ont-elles pas toutes pour nous le même intérêt ? C'est de la voie qui conduit à l'homme que nous devons nous occuper plus particulièrement. Hein, c'est absolument clair. Nous ne perdrons donc pas de vue, en les suivant les unes et les autres, donc ces grandes directions évolutives, qu'il s'agit surtout de déterminer le rapport de l'homme à l'ensemble du règne animal et la place du règne animal lui-même dans l'ensemble du monde organisé. Vous voyez qu'il crée une hiérarchie qui est absolument claire, dans laquelle il s'agit vraiment pour nous de nous comprendre. Voilà, en priorité. Alors on peut discuter de l'importance de l'argument. Je vous montrais tout à l'heure sur ces deux photos que il y a bien entendu toute une série d'arguments qui sont d'ordre scientifique, pas philosophique, qui sont simplement des différences importantes entre ces embryons. Et je vous montre ici un tableau qui a été produit par Véronique Duranton et qui est très intéressant. Il vous montre simplement quelques différences de tempo. On ne rentre pas dans des détails de linéage cellulaire, etc. Simplement des différences temporelles. Et cette chercheuse prend en compte une série de paramètres qui sont la durée de la phase préimplantatoire, donc le nombre de jours avant que l'embryon ne s'implante, avant qu'il sorte de sa zone pellucide et s'implante, le stade de développement qui est atteint à l'implantation, ça vous dit déjà que tous les embryons mammifères ne s'implantent pas au même stade. Le stade de l'activation majeure du génome de l'embryon, et puis la durée totale de gestation, donc le temps de développement. L'activation majeure du génome, simplement, laissez-moi juste vous expliquer, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec ça, le génome, l'œuf fertilisé, est totalement inerte d'un point de vue de l'activité génétique. Pour des raisons, il n'est pas nécessaire d'expliquer, rien ne fonctionne. Chez certains animaux pendant longtemps, chez d'autres, jusqu'à ce que l'embryon se prenne en charge et dise « bon, maintenant c'est le moment de commencer à réactiver mon génome pour que je me prenne en charge. Hein? » Jusqu'à ce moment-là, en fait, tout ce qui se passe est en gros contrôlé par ce que la mère a déposé ou ce que la mère a donné comme instruction à l'oocyte, finalement, en message maternel, etc. Donc il y a un moment où on a une réactivation du génome qu'on appelle le génome zygotique. Cette fois, c'est le vrai génome, celui qui nous contrôle, en quelque sorte, ici. Et vous voyez ici que ce génome, la réactivation du génome zygotique, peut se passer à différents stades. L'idée derrière ce tableau, c'est de montrer que ces différents tempos n'ont pas de cohérence, en fait. Regardez, par exemple, entre l'homme et le porc. L'homme va avoir une durée de préimplantation de 6 jours et demi. Le porc va avoir une durée de préimplantation de 13-14 jours. Et pourtant, vous voyez que le porc va avoir un développement de 115 jours, alors que nous avons un développement en gros de 180 jours. Donc, ce n'est pas parce que l'embryon s'implante plus tard que le temps de développement sera plus long, etc., etc. Et on peut prendre tous ces critères et on voit qu'en fait, ces tempos varient. Pourquoi ? On n'en sait rien. Pourquoi, par exemple, chez le cheval, vous voyez ici, on va arriver à une trentaine de jours avant que l'embryon ne s'implante. Mais attention, ça ne veut pas dire que l'embryon de cheval à 30 jours ressemble à un blastocyste. L'embryon de cheval à 30 jours ressemble en gros à un embryon humain à 30 jours. Donc on va avoir un développement de l'embryon de cheval qui va se faire avant l'implantation, et puis au bout d'un moment, il va s'implanter pour que la mère prenne le dessus avec l'alimentation, etc. C'est déjà quelque chose d'absolument remarquable, parce que d'un certain côté, ça montre à quel point l'embryon a une autonomie dans son développement, qui était quelque chose de totalement insoupçonné il y a encore une vingtaine, une trentaine d'années. Et c'est quelque chose qui deviendra flagrant lorsque nous discuterons de ces pseudo-embryons, car vous verrez qu'en fait, des cellules totalement isolées sont capables d'un pouvoir d'auto-organisation pour lequel avant on se disait « c'est pas possible, il faut un utérus, il faut quelque chose, il faut que... » Non, ces embryons sont capables vraiment de s'auto-organiser. Et tout ce domaine de l'auto-organisation aujourd'hui est un domaine qui vraiment est en grand développement, avec énormément de gens qui commencent à travailler sur ces questions. La seconde raison invoquée par Janet Ressent, c'est la question de la visualisation. Ça, c'est une question extrêmement importante. Aujourd'hui, on dispose d'outils optiques qui sont absolument incroyable, avec une résolution vraiment étonnante. Mais évidemment, lorsque l'on touche à l'embryon humain, on ne va avoir que ce qu'on appelle un snapshot, donc une pause. Ces embryons vont être récoltés peut-être suite à une fausse couche, suite à une interruption de grossesse. Donc on va pouvoir appliquer sur ces embryons toute une série d'outils optiques qui sont absolument extraordinaires. Mais on ne va pas pouvoir suivre la dynamique du développement par des outils optiques. Et aujourd'hui, on peut le faire. On a les moyens de le faire, simplement, on n'a pas les spécimens. Je vous montre ici un exemple qui est absolument magnifique. Ce sont des images sur des interruptions de grossesse, des images qui m'ont été données, comme celle du programme d'ailleurs, par Alain Chedotal. C'est des images qui sont faites dans son laboratoire à l'Institut de la Vision à Paris. Vous voyez ici le système nerveux périphérique d'un fœtus humain. C'est absolument remarquable, mais c'est statique. C'est statique. On ne peut pas avoir un déroulé du développement de ce système nerveux, simplement parce qu'on ne dispose pas du matériel. Alors, la raison est bien évidente. Imaginez ce que cela voudrait dire d'avoir une vue dynamique d'un fœtus à ce stade. Ça voudrait dire de pouvoir garder ces fœtus humains en culture, ce qui évidemment est interdit par la loi, heureusement. Et a fortiori, si l'on voulait introduire dans ce matériel des indicateurs pour la microscopie optique, comme on le fait souvent aujourd'hui, on va modifier génétiquement un embryon de souris pour pouvoir avoir quelque chose à voir, quelque chose qui va révéler, comme quand on va faire un CT scan ou une IRM hein, pendant le développement, totalement impossible, évidemment. D'où l'avantage de pouvoir produire des objets biologiques ressemblants à ces embryons à partir de cellules qui permettent toutes les sortes de manipulations possibles pour essayer de suivre ce qui se passe au niveau optique. La raison suivante, c'est évidemment, alors on rentre là dans la recherche fondamentale, c'est une raison plus compliquée mais intéressante, qui est d'essayer de comprendre la potentialité des différentes cellules souches que l'on trouve à l'intérieur d'un embryon humain ou d'un pseudo-embryon humain. Car en effet, si on se projette dans quelques années et qu'on commence à penser en termes de médecine régénérative, donc d'utiliser des cellules souches qui seraient dérivées d'embryons, de pseudo-embryons, pour aller pallier un manque de cellules dopaminergiques ou peu importe, il faut absolument être certain du devenir de ces cellules. Or, on ne sait pas comment le faire. Chez la souris, actuellement, on peut le faire, et peut-être, souvenez-vous, certains d'entre vous, du cours de l'année passée, où on voyait ces images absolument magnifiques par séquençage en cellules uniques, où on voyait les trajectoires de ces cellules souches. On disait, voilà, telle cellule va arriver. On ne peut évidemment pas le faire dans le cas de l'embryon humain. Et donc, il faudrait que l'on puisse disposer d'une sorte de catalogue du destin de ces cellules pour pouvoir dire, voilà, si on cultive, si on prend ces cellules et qu'on les transfère, on est sûr à 95% qu'elles vont donner ce type cellulaire et pas un sous-type cellulaire qu'on ne veut absolument pas avoir, etc. Donc vraiment un outil pour visualiser les linéages cellulaires. La quatrième raison alors a un impact, je dirais peut-être même encore plus important, qui est d'améliorer les technologies de FIV. C'est un point qui est assez un point de contentieux. En fait, on peut dire mais pourquoi travailler autant pour l'amélioration de ces technologies? Il y a énormément de choses à améliorer dans les technologies de fécondation in vitro. J'ai même envie de dire que parfois on est resté à un stade de pratique qui est vraiment peu satisfaisant, pour une raison assez simple, c'est que le succès de ces FIV est relativement élevé. Et donc on peut se dire qu'il s'agit vraiment de standardiser le processus, mais pourquoi aller creuser? Pourquoi aller chercher? Or, il y a énormément de choses pour lesquelles les informations restent très vagues. Par exemple, l'effet des milieux de culture sur le devenir des embryons, l'effet des températures, des niveaux de gaz, etc. Bien entendu, ça a été fait chez la souris. Et comment voulez-vous faire une étude massive sur des embryons humains? Comment voulez-vous qu'on dise sur l'année qui va venir, on va diminuer le taux de CO2 de X pour toute cette cohorte d'embryons humains et on verra s'ils ont des problèmes? Évidemment, hors de question. D'où l'idée de pouvoir améliorer ces conditions de FIV en ayant un système qui permette d'avoir une certaine prospection, parce que le problème est toujours le même. On peut faire une intervention sur un embryon humain surnuméraire, mais on ne peut pas voir quel sera l'effet de l'intervention. Parce qu'on ne peut pas réimplanter cet embryon pour des raisons expérimentales. Donc l'intérêt d'avoir des systèmes ex-utéro. Les épigénomes. Quelque chose qui, à l'époque de la naissance de Louis Brown, le premier bébé éprouvette, on ne savait même pas que ça existait. Donc les épigénomes, c'est-à-dire les modifications non pas génétiques, mais les modifications qui touchent à la structure de la chromatine, par exemple, ou à la méthylation de l'ADN, des modifications qui ne changent pas la séquence de l'ADN, mais qui changent tout ce qui enrobe cette séquence, toutes les protéines qui sont autour. On n'a aucune idée. On n'a aucune idée de l'effet de garder, par exemple, un jour de plus, deux jours de plus, un embryon en culture avant de le réimplanter. Peut-être absolument aucune conséquence, Peut-être en a-t-il une, c'est rien, on ne le sait pas. D'où l'intérêt, encore une fois, d'avoir ces systèmes. C'est un point important parce que, comme vous le savez, la population humaine est en train de faire face à un problème d'infertilité. Alors, est-ce que c'est un problème ? Ça, c'est, on peut en discuter, hein, selon que l'on considère au niveau des populations, au niveau de la génétique des populations ou au niveau des couples qui ont un problème. Évidemment, la réponse sera très différente. Mais c'est moi vous montrer ces deux tableaux qui sont, je trouve, extrêmement intéressants. Vous voyez sur la gauche un tableau qui est très connu, hein, très classique, de la fertilité relative des hommes et des femmes au cours des ans. Et donc la courbe en bleu est la fertilité des hommes, cette fertilité relative, hein, c'est-à-dire on démarre à 1. Si on démarre à 1, eh bien un homme de 50 ans a 60% de son potentiel de fertilité. C'est ça ce que ça veut dire. Vous voyez que ça ne descend pas beaucoup, tout le monde peut le voir dans la population, des hommes relativement âgés. Les femmes, évidemment, c'est très différent, puisque, je vous rappelle, vous le savez, mais je vous rappelle qu'une femme, à la naissance, a déjà tous les oocytes qu'elle va ovuler toute sa vie, donc il n'y a pas moyen d'en rajouter. Il y a une limite. Et au bout d'un moment, ben, c'est épuisé. Et vous voyez qu'il y a une descente qui est très rapide, à peu près à l'âge de 32 ans. C'est à peu près à cet âge où la fertilité, le taux relatif de fertilité chez la femme commence à descendre de façon vraiment stable. Et vous voyez qu'à 40 ans, on est pratiquement à 10%. Alors 10% sur une population, c'est énorme, ça fait encore beaucoup de... Mais au niveau individuel, c'est peu. Et sur la droite, vous voyez des statistiques qui viennent de Suisse, mais qui seraient absolument identiques en France. Et vous voyez l'évolution de l'âge moyen des femmes à la naissance du premier enfant. Et vous voyez que dans les années 1965, les femmes avaient leur premier enfant vers 25-26 ans. Aujourd'hui, elles ont leur premier enfant vers 31-32 ans, c'est-à-dire exactement au moment où la fertilité commence à descendre. Et ça crée vraiment un problème de fertilité dans notre population. Alors, il y a des solutions, évidemment. Je pense que vous en avez entendu parler, même par le gouvernement, en fait. Mais le fait est qu'on a cette correspondance qui est absolument... qui est assez critique et qui fait qu'il y a un vrai problème de fertilité. Donc, on peut estimer que tout ce qui pourrait améliorer ce problème pourrait être souhaitable. La cinquième raison, évidemment, c'est les échecs de la procréation, qui, là encore, au niveau populationnel, ne sont pas catastrophiques, qui, au niveau individuel, peuvent l'être, le sont souvent. Comprendre les mécanismes liés à l'implantation de l'embryon, ça reste vraiment la question fondamentale, puisqu'on estime que 40% des pertes dans la production d'un enfant se passe à l'implantation. Et je vous touchais un mot tout à l'heure pour déjà vous dire qu'il y avait ce problème de balance entre le moment où l'embryon va sortir et est prêt à s'implanter et le moment où la muqueuse utérine a une qualité maximale pour l'implantation. Si l'un ou l'autre de ces paramètres est hors de phase, on va à l'échec, 40% d'échec. Alors, modéliser ce processus, comment faire ? Impossible. Pour cela, il faudrait pouvoir disposer de pseudo-embryons qui seraient, le cas échéant, des blastoïdes. On n'aurait pas besoin d'aller très tard dans le développement, autorisé par la loi même. On serait à 5, 6, 7 jours. Il faudrait également avoir un organoïde de muqueuse utérine, et on en discutera la semaine prochaine, pour pouvoir voir quels sont les paramètres, pourquoi certains embryons ne s'implantent-ils pas, avoir un système in vitro où on puisse ramasser les embryons qui ne sont pas bien implantés et rapidement faire de la séquence, regarder ce qui se passe dans ces embryons. Est-ce qu'il y a, par exemple, trop de quelque chose, pas assez de quelque chose ? Essayer de comprendre quels sont ces problèmes. Vraiment une nouvelle façon d'étudier ce domaine qui, encore une fois, reste très mystérieux. Malgré les millions de naissances par FIB, c'est quelque chose qui reste extrêmement mystérieux. Je vous montre ici deux courbes, ces deux expériences indépendantes, donc des courbes qui sont comparables, et qui montrent en fait les performances assez mauvaises finalement d'Homo sapiens dans sa reproduction. Nicolas Riveron, qui participera au colloque le 7 juin, en fait, a une réflexion là-dessus qui est intéressante. Il pense que, c'est un collègue qui travaille à Vienne, il pense qu'il y a une pression de sélection, donc c'est le résultat d'une sélection évolutive qui fait que le niveau de reproductibilité de l'espèce humaine est beaucoup plus bas que dans d'autres espèces. Ça doit répondre à un certain besoin, peut-être, d'avoir moins d'enfants parfaits. Peu importe. Mais le fait est que ce taux est assez bas. Ce que vous voyez là, en fait, c'est la fréquence de succès d'avoir un enfant en ayant une seule relation sexuelle en fonction ici des jours du cycle de la femme. D'accord ? Donc ce tableau se lit de la façon suivante. Si vous avez une relation sexuelle le premier jour du cycle, c'est 0%. C'est ce qu'on essaie d'enseigner dans les écoles. Si vous avez une relation sexuelle juste au moment de l'ovulation, pré-ovulation, post-ovulatoire, vous voyez que le maximum est entre 10 et 12%. Donc même quand on est dans des conditions optimales, en fait, le pourcentage est assez bas. Pourquoi ? Que se passe-t-il ? On n'en sait rien. Ce qu'on sait par contre, c'est que l'une des barrières principales semble, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vraiment être la fenêtre d'implantation. Donc l'état à la fois de la muqueuse utérine et de l'embryon. Et ça a été mesuré alors par des expériences compliquées, parce qu'évidemment, il n'est pas toujours très simple de pouvoir identifier exactement quel était le jour de, etc. Mais lorsque cela a été fait, on s'aperçoit des courbes suivantes. Ici, vous avez le temps d'implantation en jours et le succès, le nombre le succès en fait de l'implantation. C'est-à-dire, quand l'embryon s'implante entre son 8e et 10e jour, la chance de succès est maximale. C'est ce que vous voyez là. Okay. Si un embryon s'implante trop rapidement ou trop tardivement, si cet embryon tombe de la trompe de Fallope trop vite, il progresse avec un jour d'avance, la mère qui utilise donc la progestérone, qui fabrique de la progestérone dans l'ovaire pour préparer la muqueuse utérine, va être en retard. Et donc, le match sera mauvais. Inversement, si l'embryon prend son temps, s'arrête ici et là, et décide de passer deux jours supplémentaires au niveau des trompes de Fallope, ben, il arrive trop tard. Donc la muqueuse utérine est passée. Et en fait, vous voyez en noir ici, ce qui se passe dans la plupart des pertes précoces, c'est quand même 48 cas différents, et on voit que ce sont tous des embryons qui se sont implantés trop tardivement, en majorité. Donc c'est vraiment un aspect qui est très important, et on aimerait savoir pourquoi. Et qu'est-ce que l'on pourrait faire ? Par exemple, serait-il possible, par un traitement relativement simple, de préparer la muqueuse utérine, peut-être pour que la période, la fenêtre, soit un tout petit peu plus large. Ce qui permettrait au moins de contrôler un paramètre sur les deux. Est-ce que c'est souhaitable? C'est une autre question, mais je pense que ce serait faisable, scientifiquement parlant, si on avait la possibilité d'étudier ce phénomène ex utero. Alors là, je n'ai pas résisté à vous parler de deux minutes d'une publication aussi récente qui est curieuse, en fait. Et la science, parfois, est faite de ce genre de publication. Je mentionnais la progestérone, parce que vous savez que ce qui va préparer la muqueuse utérine, c'est la progestérone. La progestérone va être fabriquée dans le verre, et cette progestérone va être emmenée dans le noyau des cellules par ce qu'on appelle un récepteur nucléaire. Ce sont des types de récepteurs de protéines, d'hormones dans ce cas particulier, qui sont particuliers dans le sens où ils ne sont pas à la membrane de la cellule. Ils ne sont pas des récepteurs, je vous ai souvent parlé, où on a des récepteurs qui traversent une membrane et puis un ligand arrive, et il va se passer toute une série de réactions dans la cellule, très classique, on en reparlera d'ailleurs. Dans ce cas particulier, c'est un récepteur qui est dans le cytoplasme, et là, l'hormone rentrant dans la cellule va contacter ce récepteur qui va l'emmener dans le noyau de la cellule pour activer les gènes cibles. Dans ce cas particulier, pour déclencher les réactions qui vont préparer la muqueuse utérine. Voilà. Or, il se trouve, et c'est cette publication par le groupe de Svante Paabo, je précise quand même que Svante Paabo a eu le prix Nobel il y a quelques années pour tout son travail de séquençage de l'homme de Néandertal. Donc si vos enfants, vos petits-enfants vous ont offert un test d'ADN pour voir quel pourcentage de Néandertal vous avez dans vos chromosomes, ben c'est lui le responsable. Et ce groupe a remarqué une chose fort intéressante, c'est que dans le génome de Néandertal, le récepteur à la progestérone est un peu différent d'une autre, dans le sens où il a ce qu'on appelle des polymorphismes, c'est-à-dire des mutations, que nous avons à 20%. Alors c'est énorme parce que généralement, comme je viens de le dire, la contribution de Néandertal à notre génome est de l'ordre de 0 quelque chose, 1, 2, 3%, pas plus. Or, il se trouve que pratiquement 20% de la population humaine à ces modifications du récepteur de la progestérone. Alors là, on rentre dans les spéculations, mais il a été montré par ce groupe que dans une cohorte de Bretons, alors pourquoi des Bretons, je n'en sais rien, c'est probablement qu'il y avait un suivi d'une population particulière par une personne particulière, c'est souvent ce qui se passe, on a une cohorte, on ne sait pas pourquoi. Dans une cohorte bretonne, il semble que les femmes qui ont ce polymorphisme, ont soit plus d'enfants ou une fertilité accentuée. On le voit ici. Alors, c'est ma traduction du texte. Hein. Porteuse, ça vaut ce que ça vaut, mais les porteuses du polymorphisme de ces allèles semblent avoir plus d'enfants et moins de fausses couches. Ça paraît curieux, comme ça. Ça paraît un peu gadget. En fait, quand on y pense, c'est pas totalement surprenant. Si ce récepteur travaille mieux, en fait, s'il est plus actif grâce à ses polymorphismes, il va activer peut-être mieux, plus de gènes cibles qui vont peut-être mieux préparer la muqueuse utérine, etc., etc. La sixième raison, c'est évidemment cette gastrulation. Alors, là, on rentre dans des choses un peu compliquées et j'ai décidé de ne pas vous ennuyer avec des schémas d'embryons gastrulants. C'est assez ennuyeux, mais il faut vous imaginer tout de même que c'est un tour de force. C'est vraiment le mécanisme clé du développement. C'est un mécanisme dont le but, et je vous en avais déjà parlé, est relativement simple. On démarre avec une boule. Et cette boule a du vide à l'intérieur. Or, à la fin du développement, on n'a pas de vide à l'intérieur. Donc, à un moment donné, il va falloir rentrer une partie de l'extérieur à l'intérieur. Et la façon dont j'aime présenter la gastrulation, qui est pas très correcte, mais qui, à mon avis, est une bonne image, c'est un peu comme si vous preniez un ballon de football un peu dégonflé et que vous faites une pression pour rentrer une partie du ballon à l'intérieur. Eh bien, si vous le faites, vous allez terminer avec une forme qui sera allongée. Hein. C'est notre axe antéro-postérieur. Donc, si vous voulez, c'est un mécanisme par lequel des cellules, comme je vais vous le montrer, des cellules qui sont déterminées à des destins différents, de façon rétrospective, évolutionnairement parlant, évidemment, puisque ces cellules, au départ, n'avaient pas de détermination précise, bien sûr. Hein. Ces cellules vont être internalisées avec celles qui vont se retrouver le plus internes, l'endoderme, endoderme, celles qui vont se retrouver le plus externes, ectoderme, ecto, notre peau, et puis entre les deux, mésoderme, les muscles, l'os, etc. D'accord ? C'est ce mécanisme extrêmement compliqué. Et la fin de ce mécanisme consiste à un processus qu'on appelle neurulation, qui est la fermeture de nos tubes neurales, donc de ce qui va devenir notre moelle épinière. Et je vous montre ici une image chez le poulet. Alors le poulet, et d'ailleurs ça me permet de dire que la visualisation directe du poulet, par ce système de faire des petites fenêtres sur l'œuf que vous pouvez remettre, a également été développée par Hermann Foll à Genève, le même qui a décrit la queue de l'embryon humain. Parfois les choses se recoupent comme ça. Ce que vous voyez là, c'est en fait un embryon de poulet. Imaginez-vous faire une petite fenêtre dans un œuf à un moment du développement où l'embryon serait peut-être un peu moins de 5 mm, quelque chose comme ça, hein, sur le dessus de l'œuf. Eh bien, c'est ce que vous verriez. Et la phase finale, en fait, c'est la fermeture de ce tube neural. Vous voyez que cette fermeture, elle se fait... Ici, vous avez une plaque, et puis cette plaque va se creuser, ici, et puis va se refermer. Donc on a une plaque comme ça, cette plaque se creuse, se referme, et on a un tube, et ce tube va donner la moelle épinière. D'accord ? Et ce que vous voyez là, en fait, c'est que c'est un processus temporel qui démarre vers l'antérieur, donc ici c'est presque fermé, là c'est pas encore, là on a encore une plaque. Donc, si vous regardez ici, vous voyez en fait ce que sera ça dans quelques heures. Hein, c'est tout l'avantage de l'embryon de poulet, tout le désavantage de l'embryon humain, c'est qu'on peut regarder dans la dynamique. Alors la raison pour laquelle je vous montre cet embryon de poulet, c'est que les oiseaux ferment leur tube neural de façon très propre, par une sorte de zipper, donc un zip, en fait, qui commence en haut et qui finit en bas. Donc il n'y a pas de possibilité de problème. Chez les humains, c'est un peu différent. Chez les humains, on commence par coller le centre, donc c'est d'abord la partie centrale qui se referme, et puis on fait, après il y a des zippers un peu dans tous les sens. En particulier, vous voyez ici un zipper qui va monter et descendre, donc ça se colle là, bien avant ce stade, hein, bien entendu. Là vous voyez le résultat des semaines plus tard. Ça va descendre, et puis il y a un autre zipper qui va monter. Donc ce tube va se fermer en plusieurs étapes. Imaginez que vous essayez de fermer un manteau avec deux zippers opposés. Vous allez arriver à un point de rencontre des deux zippers, des deux fermetures éclairs, qui va être compliqué à résoudre. Il va rester un petit trou, en fait. Eh bien, ce petit trou, ça génère ce qu'on appelle une spina bifida. Hein, c'est l'origine des spina bifida. C'est-à-dire que la jonction n'étant pas bien fermée, on va avoir une partie du système nerveux qui va sortir. Alors, quand c'est une spina bifida au niveau lombaire, comme ici, c'est très simple, il suffit de remettre dedans, de fermer, et puis on n'en parle plus. Il y a énormément de gens dans la population qui naissent avec une spina bifida. Quand c'est au niveau de la tête, c'est beaucoup plus compliqué, évidemment. Pourquoi ? Pourquoi chez l'humain, ces hippeurs partent dans tous les sens ? Pourquoi ces hippeurs ne sont pas capables de résoudre ce point, alors que ce n'est pas un gros problème, finalement ? Regardez ce qui se passe quand vous faites une blessure, etc. Vous, un mois plus tard, c'est fini, invisible et tout. Pourquoi l'embryon ne peut-il pas réparer ça correctement ? On n'en sait rien. Serait-il possible, dans un système in vitro, d'avoir accès à ce genre de malformation ? Probablement. D'où, encore une fois, l'utilité de développer ces systèmes. Ce qui est intéressant de voir, finalement, c'est que, une fois de plus, ces différences, qui sont des différences vraiment importantes entre les oiseaux, dans ce cas particulier, entre les oiseaux et les humains, touchent des mécanismes qui, in fine, conduisent tout de même au même résultat. Au même tube neural, à la même moelle épinière. Dans les deux cas, il y aura des neurones moteurs dans la partie basse, il y aura des terminaisons des neurones sensitifs dans la partie, etc. Donc, l'organisation finale sera très similaire, mais la façon dont on arrive à cette organisation est un peu plus compliquée. Alors, est-ce que l'on doit s'en soucier ? Bien évidemment, en particulier lorsqu'on rentre dans le domaine de la tératologie, où là, ça devient vraiment une raison essentielle pour le développement des humains. Je vous montre ici ce tableau qui illustre en fait les périodes du développement au cours desquelles les problèmes tératologiques sont les plus importants. Et vous voyez que entre la troisième et la huitième semaine, on a ici cette période de sensibilité maximale. Hein, c'est cette fameuse période au cours de laquelle on dit généralement aux femmes enceintes de faire très attention à ci, très attention à ça, de ne pas prendre des pommades aux rétinoïdes, etc., etc. Parce que cette période est extrêmement sensible. C'est à peu près exactement la boîte noire. Ça correspond à peu près exactement à ce qui est totalement inaccessible chez les humains. Alors, on peut étudier des phénomènes tératologiques chez la souris. Je vais vous en montrer un exemple. Je vais surtout vous montrer un exemple des problèmes qu'on a parfois à étudier ces questions tératologiques chez d'autres espèces. Vous voyez ici, la mort de l'embryon peut survenir, bien sûr, on est dans les stades pré-implantation. S'il y a un problème dans les stades pré-implantation, l'embryon, on ne le verra jamais. On ne saura même pas qu'il y avait une grossesse, finalement. Ici, c'est la formation des organes, et c'est cette période-là qui comprend la gastrulation, qui est évidemment la période la plus sensible. Et puis ensuite, on a la croissance, maturation, hein, c'est toujours pareil. Souvenez-vous, je vous disais, il y a trois grandes étapes dans le développement. Il y a produire un peu de matériel pour faire quelque chose. Ensuite, il y a, tac, 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 la gastrulation pour faire le fœtus. Et puis après, on pousse. On pousse les glandes, on fait un foie, on fait un cerveau. Mais l'origine du foie, l'origine du cerveau, tout ça, ça sort de la gastrulation. Tout est là. Hein. Donc, c'est ces trois grandes phases. Et en fait, les types de tératologie qu'on trouve correspondent à ces phases. Si on a un problème dans cette phase-là, on va avoir un problème de croissance, il va manquer un morceau, etc. Si on a un problème dans cette phase-là, on va avoir un problème topologique, d'organisation fondamentale. Alors ça, on le voit très bien, peut-être juste sur le tableau de gauche, vous voyez tout de même qu'on parle de chiffres qui sont sérieux, hein. Vous voyez ici que si on considère les malformations du cerveau qui touchent surtout cette partie-là, en fait, les malformations du cœur, des reins, des membres, des bras, des jambes, des mains, des pieds, surtout des mains, des pieds, on arrive pratiquement à 3%. Alors 3%, c'est tout de même énorme. On peut trouver que c'est peu. Ça veut dire que 3 bébés qui naissent sur 100, hein, je ne sais pas vous, vont présenter une malformation cardiaque. C'est absolument énorme. Et là encore, on n'a absolument aucune idée du pourquoi, de l'influence de l'environnement. Est-ce que ça joue un rôle? Est-ce que ça ne joue pas de rôle? Ici, je vous ai mis une liste parce que ce sont des choses que vous avez entendues, que vous connaissez. Vous voyez ici les défauts de fermeture du tube neural. Évidemment, c'est dans cette période de gastrulation, c'est pendant cette boîte noire. Vous avez là les méromélies, lamellies, c'est tous les problèmes qui touchent à la production des bras et des jambes. Il va manquer un morceau, etc. Les becs de lièvre, les fentes palatines, formation de la face. Vous savez que la face est une structure qui va partir de chaque côté et puis qui va se refermer, hein, comme le tube neural, une fois de plus, qui va se refermer comme ça. Défaut de fermeture, vous allez avoir une fente palatine, etc. etc. Tout ça, tous ces problèmes vont se passer pendant cette période très critique à laquelle nous n'avons pas accès. La septième raison, c'est la production de rudiments d'organes. Alors, je dirais que c'est une raison qui, pour moi, touche un peu à la science-fiction, mais on a été tellement surpris ces 10 dernières années qu'on peut peut-être s'attendre à tout, mais c'est vrai que j'ai encore un peu de peine à considérer que peut-être dans une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'années, on pourra, grâce à ces embryons artificiels, se produire son petit organe de remplacement en passant par l'intermédiaire d'un pseudo-embryon, etc. Ce sont des choses qu'on ne doit pas totalement éliminer de notre réflexion, mais ça me semble être encore très, très loin, finalement. La huitième raison, alors, tient peut-être au même souci d'avoir de nouvelles approches thérapeutiques, mais qui me semble alors plus intéressante, qui est évidemment de comprendre et d'essayer d'influencer les problèmes créés par les aneuploïdies. Les aneuploïdies, c'est donc le nombre de chromosomes qui n'est pas correct. L'aneuploïdie la plus connue, bien sûr, c'est la trisomie 21. Alors la trisomie 21, on sait d'où elle vient, on sait la diagnostiquer. Ce qu'on sait moins, en fait, mais qui est moins connu dans la population, c'est que les enfants qui portent un chromosome 21 additionnel souffrent d'une très grande variété d'autres symptômes, syndromes. C'est syndromique, en fait. Ce sont des enfants qui vont avoir en règle générale, des problèmes cardiaques, qui ont des susceptibilités à des maladies plus élevées que d'autres. Donc, ce n'est pas simplement une question... parce que souvent, je pense que vous connaissez le problème, quelque chose que je n'aime pas trop discuter, en fait, mais ce problème d'une sorte de refuser une médicalisation de ce statut de trisomique, en fait, alors qu'en fait, ce sont des enfants qui souffrent d'un point de vue médical, qui ont des souffrances que l'on doit traiter. Et évidemment, la possibilité de produire des pseudo-embryons au stade où le cœur se forme, au stade où, etc., avec des aneuploïdies choisies, ce serait une source d'information absolument formidable. Est-ce que ce serait utile? On ne sait jamais, mais c'est toujours la première étape, c'est de comprendre ce qui se passe. Or, ces pseudo-embryons, et ça on en parlera la semaine prochaine, sont produits à partir de cellules souches. Et les cellules souches, aujourd'hui, c'est pas encore totalement évident de créer des aneuploïdies dans les cellules souches. Mais il n'y a aucun doute que dans quelques années, on pourra produire des cellules souches avec un chromosome 16, un chromosome 18, un chromosome, etc. Peu importe. Donc de pouvoir examiner l'effet des aneuploïdies et surtout de pouvoir suivre le développement. C'est toujours ce point de vue-là, hein, de pouvoir examiner ex utero cet embryon qui se développe pour essayer de comprendre ce qui se passe. Dans le même esprit, la raison numéro 9, qui tient alors à la facilité de produire des mutations, puisque, comme je le vous disais, on est dans des cellules souches. Aujourd'hui, des cellules souches embryonnaires, grâce aux outils CRISPR, que j'ai eu l'occasion déjà de décrire, ces sortes de ciseaux moléculaires, on peut essentiellement en faire ce qu'on veut. Et c'est pas un abus de langage. On peut produire une mutation, deux mutations, quatre mutations, 10 mutations dans les endroits qu'on souhaite muter, etc. Et donc, tout ce qui touche au développement précoce de syndromes génétiques, que ce soit des syndromes métaboliques, des enfants qui souffrent de maladies musculaires, etc. Toutes ces mutations qui sont connues, en principe, en quelques semaines, peuvent être reproduites dans des cellules ES. Autrement dit, en quelques semaines, on devrait pouvoir faire pousser des objets biologiques de type pseudo-embryon porteurs de ces mutations. Alors ce sera totalement inutile dans certains cas, ce sera absolument remarquable dans d'autres cas, comme d'habitude, on ne peut pas dire qu'on va tout résoudre avec ça, mais c'est quand même une avancée spectaculaire. Je vous montre un exemple ici, en fait, parce qu'on peut dire, oui, mais vous n'arriverez tout de même jamais à produire des embryons ex utero qui vont avoir des doigts. Alors, ma première réponse, c'est oui, on le pourra. Je vous montrerai la dernière leçon, en fait, qu'au stade auquel on en est maintenant, dans la culture de ces embryons. Mais ce qu'il faut bien comprendre, et ça, c'est le principe fondamental de la biologie du développement, c'est que, c'est une phrase qui avait été prononcée par un collègue anglais célèbre, c'est que ce qu'on voit aujourd'hui s'est passé hier. Ça, c'est vraiment une maxime fondamentale de ces disciplines. Le fait que, par exemple, cette souris, alors ça aurait pu être un homme, puisque pratiquement plus de la moitié des êtres humains qui ont une polydactylie, donc un sixième doigt, c'est généralement un doigt préaxial, donc sur le haut, dans la partie antérieure, et c'est très généralement dû à un tout petit défaut d'expression de ce gène-là au moment où le membre bourgeonne. Hein? Donc là, on est vraiment dans un retour en arrière où, pour comprendre pourquoi il y a ce doigt supplémentaire ici, eh bien, il faut abandonner l'adulte et remonter sur l'embryon pour essayer de comprendre ce qui s'est passé au moment de la formation du bourgeon. L'origine potentielle de maladies, des trajectoires, développement précoce, épigénétique, bien sûr. Quid de l'influence du milieu, par exemple, sur des maladies qui pourraient se développer. Quid le jour, par exemple, où on arrive à être un peu plus précis sur ce qu'on appelle les QTL, les maladies à très complexe, le diabète, l'obésité, et où on arrive à reproduire une cellule souche qui aurait peut-être un minimum de ces traits complexes, on pourrait imaginer peut-être 20, les 20 plus importants. Hein. Vous savez que, par exemple, pour la hauteur, la taille, on a affaire à un assemblage de ce qu'on appelle des traits complexes, c'est-à-dire ce n'est pas un gène qui va déterminer votre hauteur, c'est toute une série de gènes, et il a été montré par différents groupes que si vous prenez les 10 meilleurs polymorphismes pour la hauteur, ça ne va vous expliquer que 10% de la différence de hauteur. Donc ce sont des choses extrêmement compliquées, comme dans le cas de certains diabètes, comme dans le cas de l'obésité, etc. Est-ce qu'un jour on pourra essayer de travailler sur les traits complexes en système ex-utéro ? Une question formidable. Est-ce qu'on pourra... par exemple, dériver des cellules souches, ce qu'on appelle des cellules IPS, de patients qui souffrent de traits complexes. Et puis d'essayer in vitro de comparer avec un patient qui ne souffre pas de traits complexes. Puis se dire, mais peut-être que si on exposait ces cellules à tel type de traitement, à tel type de nutriments, à tel type d'aminoacides, etc. Est-ce qu'on pourrait peut-être pas commencer à influencer ? Tout ça, c'est vraiment de la musique d'avenir, mais qui, à mon avis, est vraiment formidablement intéressante. Et puis la toxicité, bien sûr, il y a une raison fondamentale, la toxicité. La toxicité, je vous montre un cas qui est vraiment un cas emblématique en ce qui me concerne, puisque cette molécule, la thalidomide, est une molécule qui donc avait été donnée aux femmes enceintes dans les années 50. Et c'est une molécule qui était produite par la compagnie Grünenthal et qui était en fait utilisée pour essayer de soulager les nausées du matin des femmes enceintes. Et cette molécule avait été testée sur la souris, une molécule totalement inerte pour la souris, donc passage à l'espèce humaine est là une catastrophe. Ayant grandi en Suisse, je me souviens très bien avoir vu des tas de patients qui souffraient de phocomélie, puisque c'est une molécule qui, en fait, si elle est donnée au bon ou au mauvais moment, va produire ce qu'on appelle un phénotype de phocomélie, donc, qui ressemble à un phoque, finalement, c'est ça l'origine, avec les mains qui sont pratiquement collées au niveau des épaules. Donc, c'est des gens qui ont une très grande réduction de la partie intermédiaire des membres. Et à l'heure d'aujourd'hui, on ne sait toujours pas vraiment, en fait, les causes de cette phocomélie. Il y a plusieurs explications possibles. Et à quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'on... Parce que cette molécule est extrêmement puissante et aujourd'hui est utilisée en oncologie. C'est souvent le cas. Aujourd'hui, les compagnies vont rechercher d'anciennes molécules pour voir si elles n'auraient pas un effet, etc. Et cette molécule, la thalidomide, est une molécule qui a beaucoup de qualité, en fait. Sauf que elle a créé des drames pour des dizaines de milliers de familles. Pour la petite histoire, j'aime beaucoup, en fait, cette histoire. En France, il y a eu très peu de cas, parce qu'il y avait une femme remarquable, dont en fait, je suis absolument navré, mais je n'ai pas retrouvé son nom. Il y avait un article dans Le Monde, il y a quelques années. C'est une femme qui était à Lyon et qui avait des soupçons sur... parce qu'à l'époque, il y avait des soupçons de problèmes neurologiques avec cette molécule, pas du tout des problèmes de tératologie. Et donc, elle a décidé, bon gré mal gré, de mettre un peu ce dossier administratif toujours à la fin de la pile, finalement. Et elle ne s'est pas pressée. Et elle a sauvé de très, très nombreux enfants de ce problème. C'était pareil aux États-Unis. Et là, je vous montre cette image parce qu'on a une leçon à prendre là-dedans. En fait, c'est Frances O'Kelsey qui a fait exactement la même chose, sauf qu'elle l'a fait ouvertement. Elle a refusé, elle arrivait au bureau du FDA, en fait, à l'époque. Et simplement, elle refuse d'accorder l'accréditation, demande plus d'informations sur les effets secondaires. Il y avait certains effets secondaires dont on avait entendu parler en Angleterre. Et grâce à ça, en fait, elle va éviter des milliers et des milliers de naissances d'enfants, alors qu'il y en a eu beaucoup au Canada, par exemple, énormément de cas au Canada. La raison pour laquelle je mentionne ça, ce qui est intéressant, c'est que cette femme maintenant fait partie du National Women's Hall of Fame, mais en fait, ce qui est surtout intéressant, c'est que grâce à elle, énormément de critères d'acceptation par le FDA aux États-Unis ont changé. Et en fait, c'était le début d'une reconsidération du rôle des lobbies, en fait, lorsqu'on développe de telles molécules. Alors, pourquoi parler de ça? Ben, simplement parce que s'il avait été possible de disposer d'un système pour tester ces molécules sur des embryons, pseudo-embryons qui se développent relativement longtemps, peut-être aurait-il été possible de voir quelque chose. Rétrospectivement, on peut toujours le penser, sois pas sûr. Et puis je vais terminer avec l'avant-dernière raison, une raison qui me tient à cœur, en fait, l'avant-dernière raison invoquée par Jeannette Ressent, qui est alors typiquement une raison sociétale, je dirais, et qui est qu'aujourd'hui, il devient de plus en plus problématique de travailler en recherche fondamentale avec des animaux. Et c'est tout ce mouvement qu'on appelle le mouvement 3R, donc raffiner les expériences, essayer d'obtenir le même résultat en travaillant mieux, réduire le nombre d'animaux, ce qui souvent pose des problèmes d'analyse statistique, et in fine remplacer, essayer vraiment de trouver des modèles de remplacement. Et je dois dire que pour les gens qui sont un peu en dehors de ce milieu de la recherche fondamentale, ça peut pas peut-être paraître comme non évident, mais les gens qui sont à l'intérieur, la différence entre les années 80, 90 et ce qui se passe aujourd'hui est absolument phénoménale. Et si on fait une sorte de courbe de régression et qu'on essaye d'anticiper où on sera dans 20 ans. Je pense que dans de très nombreux pays européens, la recherche sur les animaux sera interdite, sauf peut-être dans des contextes médicaux, dans des structures hospitalo-universitaires, pour évidemment des raisons médicales claires, cliniques, etc. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on arrive à une sorte de fin de cycle, en fait, où il y a une prise en compte de la souffrance animale, du statut de l'animal, hein, et les problèmes qui vont arriver, qui touchent au réchauffement climatique, ne vont faire qu'accentuer cette question. C'est très intéressant d'un point de vue sociétal, c'est-à-dire la prise en compte que nous faisons partie d'un ensemble, hein, et que tout le monde est au même niveau dans cet ensemble, dans cette souffrance qui nous attend. Les animaux, les humains, les animaux. Et tout ça, je pense, va accentuer ce mouvement. Et donc, il est temps, me semble-t-il, d'essayer au maximum de développer des systèmes alternatifs pour offrir des options aux gens qui vont rejoindre cet effort de recherche fondamentale. Je pense particulièrement aux jeunes qui sont de plus en plus résistants à l'utilisation d'animaux. Et on peut les comprendre, en fait. Voilà. Et puis la dernière raison, c'est vraiment d'essayer de développer des nouvelles approches de PMA. Alors là, on rentre dans un terrain miné. C'est extrêmement difficile d'en parler ouvertement. Mais là aussi, j'ai l'impression qu'on est au seuil, dans une sorte de passage vers un nouveau cycle dans la production d'enfants par des technologies assistées. Et vous verrez que lorsqu'on va parler de l'utilisation des cellules souches, on se trouve vraiment devant un gouffre qui va s'ouvrir avec des possibilités qui vont être totalement remarquables. Alors, est-ce qu'il va falloir les mettre en œuvre? Est-ce que l'on va devoir les mettre en œuvre? Est-ce qu'on va vers une société où la reproduction de ses membres se fera différemment de ce qu'elle est aujourd'hui? Je pense qu'il faut en parler ouvertement, parce que ce sont des choses qui vont probablement se passer, ou arriver en tout cas sur la table, à un moment donné. Donc, utiliser ces systèmes comme tube à essai pour voir ce qui est possible, pour voir effectivement si on peut envisager, j'en parlais dans ma deuxième leçon inaugurale en fait, si on pourrait envisager dans un certain nombre d'années que des couples de même sexe puissent avoir un enfant sexuellement produit, c'est-à-dire où l'enfant aurait la moitié du matériel génétique d'un des parents et l'autre moitié de l'autre parent. On sait pratiquement le faire avec la souris aujourd'hui. Est-ce que c'est un droit? Est-ce que c'est pas un droit? Je pense que ce sont vraiment des choses vraiment intéressantes qu'il s'agit de discuter. Et l'innocuité et le développement de ces technologies ne peut se faire, bien entendu, que si on dispose un jour de systèmes de remplacement de l'embryon humain qui ressemblent suffisamment à l'original pour qu'on puisse un jour prendre la décision, on essaye ou on n'essaye pas. Après, bien entendu, que la société ait décidé de l'utilisation ou de la non-utilisation de ces technologies. Mais je pense qu'il faut s'y préparer. Voilà, je vous remercie et j'espère vous revoir la semaine prochaine.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.